aux petits soins.
Attention, code rouge.
Avec Gengis Grenier.
Salut Gengis.
Bonsoir Denis Martin, comment ça va?
Ça va bien. Alors, on va entendre tout à l'heure un témoignage d'une personne de nos communautés qui a souffert et qui souffre encore, j'imagine, parce que je pense qu'on ne guérit pas complètement de ce qu'on appelle les troubles alimentaires. Il s'agit de Jordan Dupuis, comédien et animateur de radio-télévision. Il devait être là au début de l'émission, mais bon, ça arrive des fois que le trafic n'est pas de notre côté. Cette fois-ci, ça ne l'est pas.
Le centre-ville de Montréal est particulier avec tous ses cônes oranges, les pistes cyclables, oui, l'absence de stationnement, puis...
Avec des veilles de mauvais temps. Alors, on va tout de suite parler des troubles alimentaires parce que j'ai lu que ça affecte... Ben, en fait, ça affecte beaucoup de personnes dans les communautés.
Tu as tout à fait raison, Denis Martin. Dans le fond, les troubles alimentaires, on n'en parle pas assez. C'est un sujet un peu aussi qui est tabou. Puis moi, j'ai été surpris de lire les études de la Colombie-Britannique, celle de l'Ontario versus ma pratique clinique au Québec. On a des petits problèmes d'alimentation dont on ne parle pas beaucoup. Puis je trouve, dans le contexte d'inflation qu'on vient de subir en ce moment, tu sais, 40$ le morceau de saumon à l'épicerie, c'est... On dirait que la bonne nourriture va devenir aussi de moins en moins accessible. C'est quelque chose que j'appréhende beaucoup. Je m'en fais beaucoup parler par ma clientèle. Il arrive souvent, même en fait presque quotidiennement, qu'on réfère des patients, des clients à des banques alimentaires ou à des organismes sociaux pour aider les gens avec un statut, avec un revenu social, un revenu économique. Disons, considérés sous le seuil de la pauvreté pour les aider à s'alimenter. Mais il y a plusieurs enjeux là, qui peuvent facilement être discutés. J'ai appris un paquet de choses, des choses que je savais pas non plus dans les études de la Colombie-Britannique. Il se passe beaucoup de choses en alimentation, Denis Martin.
Oui, beaucoup, beaucoup de choses. Juste pour dire, il y a des données assez navrantes. Il y a on parle de 5% de la population en général qui souffre de problèmes, de troubles alimentaires. Et dans nos communautés, c'est beaucoup de monde aussi.
Ça serait, selon les chiffres préliminaires qui sont avancés par l'Ontario puis la Colombie-Britannique, on parle des fois de 4 fois plus en matière de population LGBT qui souffrirait de troubles alimentaires, que ce soit de la boulimie, l'anorexie, l'utilisation aussi de produits pharmaceutiques comme des laxatifs, des émollients fécaux et tout, des produits pour purger, dans le fond, l'organisme, des pilules minceurs, et etc. Faut aussi mentionner que les utilisateurs de drogues dures comme le crystal meth, c'est pas que je vais revenir encore là-dessus aujourd'hui.
Non, mais quand même.
Mais il y a des drogues comme le crystal meth ou des drogues légales qui sont du speed Lego comme l'Adderall ou des dérivés, le Concerta, qui bloquent complètement l'appétit. Il y a des patients qui rentrent dans le bureau et disent « Moi, depuis que j'ai débuté mon traitement d'Adderall ou de Concerta, je mange plus. » Ça chauffe de l'argent sur l'épicerie, mais c'est pas censé. La personne n'est pas censée moins manger.
T'sais. Alors, il y a deux choses dont on peut parler ici. Le fait que la bonne nourriture versus la malbouffe, c'est de plus en plus onéreux et les gens ont moins les moyens de s'en payer. Et les communautés marginalisées, donc les communautés queer, on peut parler des personnes trans, non-binaires, les personnes.
Les études révèlent, entre autres, que le fait que dans les communautés LGBT, dû à la transsexualité, l'homophobie, toutes les émotions négatives qui peuvent être véhiculées par la société
hétéro-cis-normative.
Ah, mon Dieu, merci.
Je suis bon là-dedans, oui.
Merci de me reprendre. Quand que les gens sont discriminés, que ce soit, on va parler de notre communauté à nous, mais ça pourrait être aussi en lien de la couleur de la peau ou autre chose. Quand quelqu'un subit de la violence psychologique ou toute forme de discrimination, va souvent s'en prendre à sa propre image. Ça va passer par l'alimentation. La personne va se sous-nourrir ou va trop manger ou va développer aussi des troubles alimentaires. Il y a des troubles un peu moins courants comme manger du savon ou avoir des habitudes qui sont plus rares. Ouais.
Et on parle, je te dis ça parce que d'abord, il y a un problème de revenus qui fait que les gens ont moins les moyens de s'acheter de la nourriture.
La bonne nourriture. Ouais.
Puis il y a aussi des gens qui souffrent de troubles alimentaires, comme tu viens de l'indiquer. Et parlons de quelque chose qu'on connaît bien parce que l'anorexie ou les problèmes alimentaires d'un point de vue homme, c'est moins connu, mais ça existe. C'est chez les hommes gays, hein, quand on voit les gym bunnies, là, les gens qui vont au gymnase puis qui...
C'est de l'auto-violence en soi. Il y a beaucoup de gens qui vont calculer tout ce qu'ils mangent là vraiment au poids du riz. C'est ce qu'on appelle l'orthorexie. C'est les gens qui vont vraiment tout calculer ce qu'ils vont manger. Il y aura pas une ligne de moutarde de plus sur une salade ou quelque chose. Il y a aussi la prise de testostérone. Il va y avoir aussi toute la prise de autres anabolisants pour renchérir un peu l'image l'homme gay veut se donner. T'sais, dans le fond, c'est l'image qu'il veut avoir, soit une image de perfection, soit une image bien attentionnée de lui-même, chose qui résulte souvent ce que je disais tantôt. Souvent, nos personnes dans nos communautés qui se font cette violence-là ont été victimes eux-mêmes d'homophobie quand ils étaient probablement un peu plus jeunes. Il peut y avoir une corrélation entre les deux. Tantôt, tu me parlais du revenu, mettons, du Québécois ou du Canadien. Quand que c'est un revenu qui est sous le seuil de la pauvreté, il y a quand même 4 fois plus de personnes LGBT2SQ+, qui ont des revenus inférieurs à 20 000 $ par année versus les personnes hétérosexuelles. Donc, c'est sûr que, tu sais, ne pas avoir un revenu pour s'alimenter à sa faim. Moi, Denis Martin, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été un itinérant fonctionnel. Puis, je volais dans les supermarchés pour être capable de me nourrir là avant mes études. En soins infirmiers, voilà une quinzaine d'années. Fait que je sais ce que c'est. Là, maintenant, je mange peut-être un peu trop à ma faim. Parce que j'ai changé, oui, de statut social. Tu sais, je fais un bon salaire aujourd'hui et tout. Puis, je mange ma faim, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai déjà été j'ai déjà été sans toit. Ça n'a pas duré longtemps, mais tu sais, quand on est sans toit, sans revenu fixe, puis qu'on est sur vraiment sous le seuil de la pauvreté, puis qu'on est obligé de voler pour manger, on peut être aussi gêné pour demander de l'aide, demander à des proches de nous cuisiner un repas. T'sais, c'est pas quelque chose qu'on va porter à faire. On va préférer se fermer la gueule, excusez-moi l'expression, puis se coucher le ventre vide. Ça fait moins mal à l'ego.
D'ailleurs, c'est beaucoup de ces études-là, j'en ai lu quelques-unes aussi, disent que les professionnels de la santé manquent de connaissances vis-à-vis de nos communautés pour être capables de subvenir à ce genre de besoins-là, parce que les gens ne se sentent pas bien d'en parler à leur médecin ou d'en parler à leur professionnel.
Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, puis en plus, moi, dans mes rendez-vous médicaux, faut souvent, tu sais, quand que c'est un patient groupe de médecine familiale, je dois prendre ses données de l'indice de masse corporelle. Je dois le peser. Je dois le mesurer. Puis en principe, je devrais faire un tour de taille, puis je me sens tout le temps mal de le faire, même comme infirmier. Mais je vais le peser, puis je vais le mesurer. Puis là, on en arrive à un indice de masse corporelle. Si mon indice de masse corporelle chez une personne, mettons, gay, ben, de notre communauté, est en bas de 16, 17 en indice de masse corporelle, c'est quelqu'un qui est quand même assez très chétif. Il y a un trouble alimentaire, à moins qu'il soit... qui a un très grand métabolisme, qui digère très vite, qui métabolise tout ce qu'il mange très rapidement, c'est quand même quelqu'un qui a probablement un trouble alimentaire. J'ai pas cette portion-là dans mon rendez-vous pour aller explorer tout ça. Quelqu'un qui, au contraire, a un indice de masse corporelle à 38, ben c'est sûr que si c'est quelqu'un qui mange peut-être un peu trop, un peu plus que sa faim, il y a sujet à discussion. Si c'est quelqu'un qui mange un peu trop, des fois, souvent, les personnes vont manger leurs émotions. Il y a des raisons derrière ça aussi. Là.
Parce que les troubles alimentaires, c'est pas seulement que de s'affamer, c'est aussi parfois de trop manger.
De trop s'alimenter.
C'est le problème de Jordan Dupuis, dont il est question dans son livre, qui a dû même subir une opération bariatrique. Ça non plus, c'est une grosse décision à prendre, puis il y a plein de risques à ça.
Puis on a de la misère à mettre des mots là-dessus. T'sais, quand on parle de maigreur ou d'obésité, ça vient souvent avec des commentaires abjects. Fait que, tu sais, les personnes se font dire qu'ils sont trop maigres, qu'ils n'ont pas de forme ou qu'ils sont trop grosses, qu'ils ont trop de forme. Fait que, tu sais, les gens sont pas portés à en parler. Moi, si je relève un dossier médical puis je me rends compte que la personne a un indice de masse corporelle trop petite, je peux le taper dans le sommaire que la personne est cachexique, tu sais, qu'elle présente des signes de maigreur ou qu'elle est obèse. Mais tu sais, on n'en est même pas rendu là comme professionnel. Tu sais, monsieur, madame, vous êtes obèse morbide ou vous présentez certains signes là d'être cachexique, soit de pas manger du tout ou tu sais, on n'aborde pas ces sujets-là, ça c'est sûr et certain. Souvent, ce que les patients peuvent nous dire des fois, c'est j'ai rencontré mon spécialiste, mon gastro-entérologue, puis il m'a dit que j'étais obèse morbide, j'ai vraiment pas aimé ça, tu sais. Fait qu'on sait pas non plus comment aborder ça, parce que la clientèle, c'est pas nécessairement notre sujet de conversation préféré de parler de notre alimentation.
Mais il faut quand même réaliser qu'on vit dans un monde grossophobe.
Oui,
dès que quelqu'un a un tour de tête plus que ce qu'on présente dans les médias, dans les couvertures de journaux, de magazines, ben cette personne-là, elle est exclue. Puis beaucoup de gens vivent cette exclusion-là. D'ailleurs, encore une fois, Jordan en parle dans son livre, tu sais, le fait que tu sois plus gros, ben les gens sont moins intéressés à toi.
Ben, c'est tout à fait vrai, parce que nous, l'image là, dans laquelle la publicité, les médias, tout notre environnement là, audiovisuel autour de nous sur une base quotidienne, à partir du moment où on sort de chez nous, puis qu'on rentre le soir chez nous, tout notre gros cycle, tout ce qu'on voit autour de nous, ça représente seulement un petit faible pourcentage de la population. Une personne qui n'est pas obligée de surveiller ce qu'elle mange, sans prendre de poids, sans en perdre, qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut, sans que ça ait un impact sur son poids.
On les aime pas, ces personnes-là.
Non, mais elles sont minoritaires.
Ben oui,
on parle d'un petit pourcentage de la population sur lequel on se base pour faire l'image collective, soit l'image audiovisuelle de toutes les publicités auxquelles on est assujetti. On a besoin de plus de personnes grosses, on a besoin de plus de personnes maigre aussi sur nos... Peut-être pas. La mode a repris tout ça.
Ah ben
ça,
oui, la plupart des mannequins qu'on voit défiler
Des fois, je les regarde marcher Denis Martin, puis je me dis, la dernière fois qu'ils ont mangé un cheeseburger, c'était en 1954.
C'est épouvantable, parce qu'on a besoin de
plus de forme, plus de rondeur, moins de personnes très slim qui représentent seulement quelques pourcentages de la population pour aider un peu l'image collective à se refaire. C'est pas vrai qu'on doit se baser sur ce petit échantillonnage-là publicitaire pour en faire nos points de référence sociaux-là. Tu parlais de grossophobie. J'ai une de mes collègues infirmières dans un de mes milieux de travail, elle milite beaucoup contre la grossophobie, puis pour l'inclusion de personnes avec des rondeurs un peu plus sur la place publique, parce que c'est vrai que ça n'a pas de bon sens que les personnes qui sont en surplus de poids se fassent exclure de partout. Là, c'est plus difficile pour elles de se faire des amis, c'est plus difficile pour elles de se faire accepter par leur environnement de travail. Il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus là, en tant que société.
Moi, je vais te faire une confidence parce que, ben, en fait, je fais une confidence, on est à la radio. J'ai quand même vécu cette relation très difficile avec mon corps parce que je me trouvais pas beau, je me trouvais trop maigre et Dieu sait que j'en ai fait des exercices, j'en ai pris des suppléments, j'en ai fait des trucs à me rendre malade. Là, à l'âge que j'ai, là, on fera plus ça, là, mais c'est quand même la dure réalité dans laquelle on vit.
Faut que ça fasse un temps. Faut pas qu'un trouble alimentaire persiste sur toute une vie, ça c'est sûr et certain.
En tout cas, en terminant rapidement avant d'aller à mon autre entrevue, dis-moi, on dit beaucoup que les professionnels de la santé ne sont pas assez formés pour s'occuper des membres de nos communautés au niveau des problèmes alimentaires, on vient de le voir.
On vient de le voir, oui. C'est vrai, c'est pas un sujet qu'on aborde dans nos bureaux. On va plus parler de sexualité, on va parler de consommation de drogue, on va parler d'habitudes sociales. Mais parlant des professionnels de la santé, il y a un article suite à notre dernière entrevue dans la presse qui a donné suite un peu à notre dernière entrevue où est-ce qu'on est aussi peu outillés pour soigner les personnes avec avec l'identité de genre très variée, là. On est des outils, on est tous pas bons.
Jean-Jacques Grenier, merci d'avoir été avec nous.
Plaisir.